Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, je vous retrouve avec joie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble un sujet éminemment important qui nous concerne tous, chacun, vraiment. Personne n'est exclu de la souffrance. Alors, confions cette catéchèse à la reine des douleurs, cette créature bénie, immaculée, qui sait ce que c'est vraiment que la souffrance. Il n'y a pas de créature qui ait plus souffert que la Vierge Marie. Alors, confions cette catéchèse à elle pour qu'elle nous guide tout au long de ce parcours de ce jour et de notre vie tout entière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, il y a bien sûr plein de souffrances objectives, des faits, des événements. Et il y a aussi dans le mystère de la souffrance la manière dont chacun vit tel ou tel événement, telle ou telle souffrance. Et nous sommes un peu inégaux devant la souffrance dans le sens où, justement, devant apparemment tel même événement ou événement semblable, eh bien, chacun de nous, on vivra la chose différemment. Et de sorte que devant le mystère de la souffrance, nous ne pouvons pas trop nous juger les uns les autres, vous voyez. Parce que chacun est unique, la vie de chacun, le mystère de la personne humaine, chaque personne est unique, selon la merveille qu'elle est, bien sûr, et puis selon son atavisme familial, selon sa fragilité déjà inhérente, selon son contexte, selon l'éducation, selon plein de choses qui rentrent en jeu, la sensibilité de chacun, de sorte que chacun de nous, nous sommes vraiment très différents. C'est le point de départ que je voulais prendre avec vous pour aborder ce sujet si délicat, si profond, et vous allez le voir, béatifiant aussi, car nous avons une bonne nouvelle, nous chrétiens, sur le mystère de la souffrance. Nous avons une réponse propre. Nous avons déjà une réponse. Car bien sûr, la première question qu'on se pose lorsqu'on souffre, c'est deux questions à la fois qui sont liées, c'est pourquoi ? Et d'où ça vient ? C'est la question de l'origine et c'est la question de la finalité. Pourquoi je souffre ? Ce pourquoi qui peut être pris en un mot ou en deux mots, pourquoi, en vue de quoi ? On cherche tous une explication. Comment cela se fait-il que je souffre de cela ? Et alors dans la Bible, car la Bible reflète l'expérience humaine, illustre notre humanité, nos expériences. Il y a toutes nos expériences dans la Bible, c'est assez impressionnant. Et il y a Dieu qui rejoint l'homme. La Bible, la Sainte Écriture, qui est l'expression de la révélation divine, de la parole de Dieu mise par écrit, eh bien, nous révèle Dieu qui aime l'homme, qui a un dessein d'amour de Dieu sur lui, d'amour sur lui, sur chacun de nous. Et puis la Bible parle énormément de la souffrance. De cet homme dans lequel nous pouvons chacun, dans ces hommes, de ces femmes, dans lesquels chacun de nous, on peut se retrouver, et qui crie vers le ciel, qui a mal, qui souffre. Car la souffrance est un cri. Et la Bible prend au sérieux la souffrance. Elle prend au sérieux notre vie humaine, notre personne, toutes les dimensions de notre vie, pas que l'éternité, mais tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit. Et elle prend au sérieux la souffrance. Elle n'est pas, à l'égard de la souffrance, doloriste. Elle l'assume. Elle le regarde en face. Et lorsqu'il y a des deuils, lorsqu'il y a des défaites, lorsqu'il y a des calamités, eh bien, il y a des plaintes. Quand l'homme crie, quand l'homme souffre, il s'exprime et la Bible nous en parle. De sorte que lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons nous retrouver tellement. Les expériences de souffrance qu'il y a dans la Bible sont nos propres expériences. Mais avec une lumière spécifique de la Bible qui est inspirée par le Saint-Esprit. Il y a donc dans la Bible, qui est la parole de Dieu mise par écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, une lumière divine par rapport à notre vie. Cette lumière qui commence dès les premiers versets jusqu'au dernier, du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, en passant par ce mystère du Christ, dont bien sûr, évidemment, nous allons parler. La Bible reconnaît qu'il n'est pas convenable, que c'est quelque chose de bizarre. C'est une anomalie, la souffrance. Au point de départ, on se dit, on n'est peut-être pas fait pour ça. Et pourtant, tout le monde souffre. Mais on ne se résigne pas, vous voyez. Dans la Bible, il n'y a pas de 100% de pessimisme. Même l'auteur de celui qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité », il dit quand même que, au cœur de toutes ces absurdités que nous pouvons traverser, et la période actuelle est une période un peu absurde, eh bien nous pouvons toujours nous remettre au Seigneur. Alors, c'est pourquoi nous trouvons dans la Bible l'éloge, l'hommage rendu au médecin. La santé est un bien, par exemple. Et lorsqu'il n'y a pas la santé, eh bien, on demande la guérison. On prie. Il y a les prières de demande de guérison. Et puis, il y a tout ce qui se passe au niveau personnel, individuel, familial et collectif. Le peuple de Dieu et l'humanité tout entière, avec ses fléaux, ses sécheresses, ses épidémies, l'esclavage, l'exil, la guerre, la perte des biens matériels, tout y est. Et alors, la Bible se fait l'écho de cette grande question dont je vous parlais tout à l'heure, d'où vient la souffrance ? D'où vient ma souffrance et d'où vient la souffrance? Et quel est le lien que nous pouvons faire entre la souffrance et le Seigneur? Alors, beaucoup vont se dire, il y a peut-être un lien entre peut-être mon péché et ma souffrance. Si je souffre, je paye peut-être soit mon péché, soit celui de mes parents. Il y a comme ça cette croyance qui perdure dans le temps et que nous retrouvons même dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 9, il y a quelqu'un qui est né aveugle. Et la question que les disciples de Jésus posent à Jésus, c'est « Rabbi, qui a péché ? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» C'est quand même étonnant. Il y a donc ce questionnement devant ce manque, cette maladie, cette cécité physique. Qui a péché ? Donc, quelle est l'origine de ce mal? Bon, ça peut pas être Dieu quand même. Si? Non, il y a forcément quelque chose qui cloche. Alors, chez lui, chez ses parents? Jésus répondit: Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Autrement dit, le Seigneur fera une guérison, mais qui sera la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi le Seigneur, qui est bon, qui est la source de tout bien, qui n'est pas la source du mal? Attention au manichéisme, c'est-à-dire qu'il y a l'origine, un Dieu du bien et un Dieu du mal, vous voyez? Non, ça non, nous n'y croyons pas. Il y a le Dieu du bien, point, qui ne fait que des bonnes choses, et la présence du mal, de cette absence de bien, nous pose question. Et la Bible répond déjà que la question de l'origine de la souffrance, ce n'est pas de la souffrance personnelle, ce n'est pas d'abord le péché personnel, c'est que ça remonte à une créature angélique, au péché des origines, au péché de nos premiers parents. Et la nature humaine, qu'on appelle le péché originel, la nature humaine, est marquée par la souffrance suite au péché. Donc, comme nous dit Genèse 3, 14, 19, après le péché, le Seigneur dit au serpent: Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Ça, c'est au démon, à qui le Seigneur dit: Tu as déjà perdu. Il y a une malédiction, il y a une souffrance, il y a la maladie, les conséquences du péché et la mort même qui vient dans le monde. À la femme, il dit: Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Quelle souffrance! Le désordre, ce désordre, est une grande souffrance, parce que chacun de nous, nous voyons bien que nous sommes faits pour vivre en harmonie, en communion, et que le manque de communion nous donne beaucoup de souffrance. À l'homme, il dit: Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi, à force de peine. Tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. Il y a donc une première réponse que nous pouvons tirer de l'enseignement de la Bible. C'est que le mystère de ma souffrance remonte à très loin. Et que Dieu n'a pas d'abord voulu que je souffre. Dans le dessein, j'allais dire, initial de Dieu, même si le dessein de Dieu est tout un, bien sûr, parce que justement, Dieu va nous révéler qu'il intègre notre propre souffrance, qu'il va venir l'habiter, etc. On y arrive. Mais je suis héritier quelque part de ce qui s'est passé en amont de moi. Alors, tous nous sommes marqués, et dans le peuple de Dieu, même les croyants, ceux qui s'attachent au Seigneur, vont être marqués par la souffrance. Et La souffrance et la mort, mais j'en parlerai de la mort dans justement la prochaine catéchèse du vendredi. Restons dans la Bible et restons dans ce cadre, si vous voulez, des croyants qui s'attachent au Seigneur tout en souffrant, qui ne maudissent pas le Seigneur car ils ont compris que le Seigneur n'était pas directement à l'origine de leur souffrance, le Seigneur ne veut pas le mal, mais le Seigneur, déjà avant Jésus, ne supprime pas la souffrance. Il y a donc un chemin d'acquiescement, un chemin de consentement, un chemin d'acceptation à avoir. Si nous ne voulons pas être en rébellion, en révolte contre le Seigneur, eh bien nous devons emprunter ce chemin d'acceptation. Car le Seigneur n'est pas celui qui t'envoie tel quelqu'un qui veut te faire mal. Oui. Le Seigneur n'est que bonté. Et l'homme, nous, chacun de nous, nous expérimentons le côté purifiant de la souffrance, comme un feu qui dégage le métal de ses scories. Car nous constatons tous que nous sommes un peu chargés, si vous voulez, de plein de choses, que nous avons des mélanges, des impuretés, et que lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, lorsque nous souffrons, lorsque nous acceptons de souffrir, nous considérons qu'il y a comme quelque chose de purifiant, une valeur liée à la souffrance, une valeur purifiante. Ça nous épure, ça nous dépouille, ça nous écorche, ça nous crucifie. Avant même Jésus, nous pouvons faire cette expérience, tout être humain peut faire cette expérience. Et alors on dira, puisqu'on s'exprime comme ça dans l'Ancien Testament, c'est toi Seigneur qui nous a éprouvés, affinés comme on affine un métal. Tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un étau sur nos reins. Tu as mis des mortels à notre tête, nous sommes entrés dans l'eau et le feu. Tu nous as fait sortir vers l'abondance. C'est une manière que souvent qu'on voit dans l'Ancien Testament de s'exprimer, où on met sur Dieu, j'allais dire, on fait de Dieu l'auteur du mal parfois. Mais c'est plus dans l'expression que dans la foi. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu nous as éprouvés. Ah, tu nous as fait mal, là tu as tapé un peu fort. On a un peu des expressions comme ça. C'est que d'une part, l'image de Dieu demande à être purifiée dans tout ce parcours de la révélation divine, accueillie dans le cœur de l'homme, dans ce qu'il comprend de Dieu, du vrai Dieu, et dans l'expression qui est à aussi purifiée lorsqu'on s'exprime à l'égard du Dieu bon. Comment est-ce que Dieu peut être bon et en même temps nous envoyer des calamités, vous voyez ? Nous faire souffrir. Donc il faut bien comprendre que dans le cœur du croyant, s'il ne se rebelle pas, car la rébellion est un vrai poison, s'il ne se rebelle pas, il entre dans un chemin de purification par le biais de la souffrance. L'image de la correction paternelle aussi se trouve dans la Bible pour nous exprimer la valeur éducatrice de la souffrance. Il y a toujours une part de mystère, c'est-à-dire d'incompréhension. On ne peut pas faire tout le contour au niveau de la compréhension. Pourquoi est-ce que je souffre telle chose ? Il y a toujours quelque chose qui nous échappe pour le croyant, car le croyant adhère au Seigneur dans la foi. Donc c'est une lumière, mais avec une certaine opacité. Il y a donc une autre acceptation, celle du croyant, de dire « je chemine dans la foi avec la souffrance dans ma vie, mais j'accepte de ne pas tout comprendre aussi. » Par exemple, il y a quelque chose de très beau dans le 50e chapitre du livre de la Genèse. Dans l'histoire de Joseph, vous savez qu'il est vendu par ses frères, et qui se retrouve quelques années après intendant du pharaon. Et puis il y a la famine, et puis il y a ses frères qui l'ont vendu. Et puis il y a la famine, il vient de demander à manger, et puis c'est lui qui est en charge de l'intendance. Et il dit cette parole merveilleuse, mais c'est Dieu qui m'a envoyé au-devant de vous. Il y a déjà, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, cette lecture du regard de foi sur la souffrance qui dit que, oui, certes, ça a dû le faire souffrir, Joseph, d'être vendu par ses frères, d'être dans une citerne. Et puis, avec un regard de foi, une relecture dans la foi, il s'est dit, non, en fait, c'est le Seigneur qui m'a envoyé au devant de ma famille pour que je puisse leur procurer le pain. Il y a donc dans le regard de foi, parfois, et c'est salutaire parce que parfois on se cogne contre un événement et on ne voit pas que, par exemple, Dieu préserve. On se dit, pourquoi j'ai pas eu tel examen? Pourquoi il y a telle porte qui s'est fermée? J'ai bossé comme un fou, ça ne marche pas. J'ai fait des neuvaines sur neuvaines. J'ai vraiment fait confiance au Seigneur et puis ça ne marche pas, je ne sais pas. N'oublions jamais que la miséricorde, ce n'est pas que le côté « je te pardonne ». Mais il y a une miséricorde prévenante, comme dirait la petite Thérèse. C'est-à-dire que le Seigneur enlève des pierres de devant nous, mais qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Et alors nous on râle parce qu'il y a d'autres choses, il y a des ronces, etc. Mais ça aurait pu être 10 fois pire, si vous voulez, si le Seigneur n'intervenait pas. Mais qu'est-ce qui nous permet d'entrer dans cette réalité? C'est la foi. La foi qui nous fait dire que, eh bien, le Seigneur se révèle en ses desseins. Il y a un chemin de révélation de Dieu à travers ce que je vis, même dans la souffrance. Peut-être que je ne comprends pas tout de suite, hein, quand je suis vendu, si vous voulez, par mes frères et que je suis dans la citerne et qu'il y a les caravaniers qui sont en train de faire leur business. Si vous voulez, on ne comprend pas. Peut-être dans l'immédiateté de l'événement. Mais avec du recul, comme on dit, mais avec surtout un regard d'en haut, on se dit, Seigneur, moi je ne comprends pas ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais dans cette citerne, vendue par mes frères? Mais il y a sûrement, parce que j'ai la foi, je crois qu'il y a un dessein de Dieu derrière ça. C'est mystérieux, mais c'est réel. Et alors le Seigneur attend de la part du croyant dans cette épreuve, la foi, l'adhésion dans la nuit. La foi, c'est une lumière qui me permet de marcher dans la nuit. C'est très puissant, la foi. C'est donc une épreuve. La foi est tellement importante que tous les croyants, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, tous les croyants, nous sommes éprouvés dans notre foi. Abraham, bien sûr, rappelez-vous le sacrifice d'Isaac, Job, Tobie, Jérémie. Tous vont apprendre de la souffrance. Moïse, il n'en peut plus de ce peuple qui lui est confié, si vous voulez, il en a marre tout le temps. Il souffre beaucoup, Moïse. Et il prie beaucoup. Et il commence à percevoir que dans la prière, dans sa prière, en étant souffrant de ce que le peuple vit, lui-même souffrant, avec ses râles-bolites aigus, si vous voulez, eh bien, il y a dans la souffrance une valeur d'intercession. Quand nous souffrons et quand nous voyons nos semblables souffrir, eh bien, ça nous fait prier. Si on veut, bien sûr. Et alors, je vous ai cité pas mal de choses, et nous arrivons, avant d'arriver au mystère du Christ, vous voyez que c'est long, c'est tellement vaste, et je demande vraiment au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut parce que le temps nous est compté. Nous arrivons dans une splendeur de révélation, toujours dans la Bible, au chapitre 53 du livre d'Isaïe. dans ce passage que nous appelons le serviteur souffrant. C'est tellement beau, tellement grand, tellement profond que je veux le relire et le réentendre à nouveau avec vous d'une manière nouvelle. Il ne faut pas s'habituer à ce passage, c'est tellement beau. Bien sûr, en filigrane, nous chrétiens, on voit déjà la révélation du mystère du Christ. Car n'oublions pas que c'est Dieu, l'auteur principal de l'Écriture, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils. Qui a cru ce que nous entendions dire et le bras du Seigneur à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé. Nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. C'est le chapitre 53 du livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, bien sûr, que nous pouvons lire et relire en priant, car nous avons accès là à quelque chose de grandiose et de nouveau. Dans le mystère de la révélation de la souffrance, c'est quelqu'un, un serviteur, qui prend sur lui nos souffrances, nos douleurs, et qui offre sa vie en sacrifice expiatoire, c'est-à-dire pour racheter la multitude, et qui par ce sacrifice a une fécondité phénoménale, qui ne parle pas, qui n'a pas figure humaine, familier de la souffrance, homme de douleur, abandonné des hommes, objet de mépris, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, vous voyez, il n'est pas séducteur. Transpercé à cause de nos crimes, à cause du péché. Et cette révélation sublime est tellement inédite, c'est là où on voit vraiment que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, s'accomplira bien sûr dans le mystère de Jésus, qui, lorsqu'il vient, nous allons bien sûr approfondir dans, je crois, une prochaine catéchèse, car je m'aperçois en vous parlant qu'il nous faut prendre malgré tout du temps pour parler de ces choses, et du coup, nous prendrons deux catéchèses pour cette thématique de la souffrance. Lorsque Jésus s'incarne, lorsque le Verbe s'incarne, d'emblée, c'est le mystère de la rédemption, c'est le sacrifice d'expiation. Jésus est offert, Jésus se livre. Et c'est le mystère du Christ qui, dans sa vie publique, va opérer des guérisons. Beaucoup de guérisons. Des gens malades, des gens avec des problèmes physiques et autres que physiques, spirituels, des exorcismes. Jésus libère l'homme de la maladie. Lorsque nous voyons Jésus guérir et opérer ses miracles, ce sont non seulement des miracles, mais des signes. Signes de quoi ? Signes que nous sommes arrivés dans les temps messianiques et qu'avec Jésus, ça y est, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et que, auprès du Seigneur, comme disait, comme annonçait déjà Isaïe, nous trouvons la guérison. En Jésus, notre paix, nous trouvons la guérison. Il donnera même à ses disciples le pouvoir de guérir. Il y a donc dans la manifestation de Dieu, dans la révélation de ce qu'il est, cet aspect très particulier, je viens te libérer de ta souffrance. Mais tout le monde n'a pas été guéri par Jésus. Et nous-mêmes qui crions encore notre souffrance, avec nos problèmes de différents ordres, dans différentes dimensions, il nous faut bien nous apercevoir que Dieu ne nous guérit pas toujours, Jésus ne nous guérit pas toujours. Nous avons encore des problèmes, des échardes, dont nous aimerions, bien comme saint Paul, être libérés. Mais le Seigneur ne nous en libère pas. Pourtant, on lui demande et on lui redemande. Alors, Seigneur, comment ça se fait que dans les évangiles, il y a 2000 ans, tu en as guéri beaucoup, et que tu continues à guérir d'ailleurs, mais tu ne guéris pas tout le monde. C'est qu'il y a donc, à l'égard de la souffrance, si Jésus ne nous guérit pas de nos souffrances entièrement, c'est qu'il y a un chemin de vie, quand même, quelque part. Car si Jésus ne nous guérit pas, ce n'est pas pour nous désespérer, bien sûr, ce n'est pas pour nous enfermer, ce n'est pas pour nous dire, ben voilà, je suis un cul-de-sac pour ta vie. Ah, tu croyais que je pouvais faire quelque chose pour toi, je peux pas. Tant pis. Non, c'est pas ça. Si le Seigneur ne nous guérit pas, c'est qu'il y a un chemin de vie. Si la porte de la guérison ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a une autre porte qui s'ouvre. Il y a cette parole magnifique de l'Apocalypse, déjà présente dans Isaïe, mais l'Apocalypse qui nous dit, ça y est, l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, en chapitre 21, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Il y a donc, entre le moment où Jésus vient et le moment où Jésus vient dans la gloire, où notre ciel, au niveau de notre éternité personnelle, j'allais dire, au ciel on ne pleure plus, on ne souffre plus. Le Seigneur aura essuyé toutes nos larmes. Il y a donc un temps qui nous est donné à nous, chrétiens, non seulement dans l'histoire de l'humanité, nous vivons ce moment-là précis, cette époque, cette période, mais il y a donc un chemin dans lequel nous pouvons entrer. C'est le chemin que Jésus est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le chemin que Jésus initie. S'il est le chemin, c'est pour nous faire entrer par ce chemin. Nul ne va au Père sans passer par moi. Il y a donc à l'égard de nos souffrances que le Seigneur peut-être, dont le Seigneur peut-être ne nous guérit pas, ici-bas. Il y a un chemin à découvrir. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine catéchèse, car vous voyez, on va finalement dédoubler ce sujet, car il est très important pour nous, chrétiens, d'entrer dans le mystère de Jésus et de voir comment Jésus souffre. De quoi souffre-t-il? Comment il souffre? Et comment nous, chrétiens, nous sommes invités à souffrir avec lui, par lui et en lui. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.